Africa. Le journal des auditeurs avec Stéphanie Hartmann sur Africa Radio.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le journal des auditeurs, votre émission pour commenter l'actualité chaque jour du lundi au vendredi sur Africa Radio. Les enjeux de la présidentielle en Mauritanie, c'est le sujet du jour. Les Mauritaniens sont appelés aux urnes samedi prochain. Le président sortant Mohamed Ould Abdelaziz ne se représente pas. Dans ce contexte, quels sont les enjeux de l'élection? Nous en parlerons dans quelques instants avec Bocar Oumarba, porte-parole de la coalition Vivre Ensemble en Europe, dont le candidat est Amidou Babacane. Pour participer, composé dès maintenant le 33 1 55 07 58 00 33 1 55 07 58 00. Vous pouvez également nous envoyer des messages sur WhatsApp ou alors notre page Facebook, facebook.com/journal des auditeurs. De nombreux messages, j'en lirai quelques-uns dans quelques instants. Mais avant cela, je vous propose d'écouter quelques messages audio cette fois que vous nous avez laissés sur le répondeur d'Africa Radio.
Africa. Vous êtes sur le répondeur d'Africa Radio. Après le bip, c'est à vous.
Oui, bonjour, Radio Africaine. Au moment où je vous parle, je suis en train de suivre tout le temps le débat qui se passe sur la République démocratique du Congo. Ce théâtre, la comédie, la tricherie qui bat le record depuis les élections présidentielles et ça continue par des députés invalidés de la part de la Cour constitutionnelle. Et la Cour constitutionnelle qui est dirigée par un président qui demande des explications, et même le président qui veut demander des explications au président de la Cour suprême. Mais ce président, lui, il sait de quoi s'agit-il. Pour moi, je ne sais pas. Cette comédie, je le répète encore, et ce théâtre, et cette tricherie, c'est donc tous ces dirigeants du Congo sont en train de se foutre de la gueule du peuple.
Bonjour à Radio Africa. Bonjour Stéphanie. Bonjour tous les auditeurs. J'interviens par rapport à Bénin ce matin. Stéphanie, il y a eu Bonny doit pas être étonné. C'est lui qui a mis le président actuel en exil. Je ne sais pas si c'est un mensonge ou si c'est une vérité. Je ne suis pas un juge. Qui a dit que le monsieur voulait l'empoisonner. Monsieur a fait plus d'un an ici, en France ici. Il a laissé tous ses affaires là-bas. Aujourd'hui, lui n'est plus au pouvoir. Qui c'était? Si c'était pas ce qu'il cherche, il va trouver. C'est le retour à la française. Quand on dit après le pouvoir, là, il croyait que c'est faux. Quand tu es au pouvoir, il faut penser après le pouvoir. Tout le monde ne peut pas pardonner. On ment sur les gens. On met les gens en mandat d'arrêt sur les gens, ils sont en exil, et puis on dit de ne pas rentrer. Et après, quand ils viennent au pouvoir, vous voulez que lui. Non, Stéphanie, c'est le rituel à l'ascenseur. Merci.
Bonjour, chers amis auditeurs d'Africa Radio. Brice, c'est l'appareil. Je voulais réagir, en fait, à cette espèce d'annonce en fanfare des chefs d'État, de certains chefs d'État africains, d'ailleurs très favorables aux francs CFA, pour annoncer l'arrivée d'une monnaie unique dans une zone CDAO. Et voilà, donnant l'impression que le projet vient d'eux, de leur grande intelligence et puis de leur grand projet, de leur grande pensée pour l'intérêt des Africains. Alors je rappellerai juste que en novembre 2017, fin octobre 2017, Madame Rachida Dati, ministre de M. Sarkozy, ancien ministre Sarkozy, annonçait que le franc CFA ne devrait plus être fait en France et que cette monnaie devrait changer de nom. Donc il ne s'agit que d'un changement de nom pour passer de la coupe française sous la coupe française à passer sous la coupe européenne. Donc je pense que ce sera une monnaie qui ne sera pas spécialement plus satisfaisante pour les Africains, mais en tout cas qui donnera une impossibilité de sortir. Comme une contestation se fait sur le franc CFA, et ben, quand la nouvelle monnaie va arriver, de toute façon, ces contestations n'auront plus lieu d'être puisqu'elles verrouilleront de fait la sortie de cette nouvelle monnaie-là pour les Africains. Bonne journée à tous.
Bonjour Africains, bonjour Africa numéro 1. Très particulièrement pour l'attaque au Mali, le Mali a au genou. Les Maliens sont victimes de tout. Les Africains et les Européens et les Américains. Je vous fais savoir qu'il y a des plans pour faire sortir du Mali dans cette situation. Premier plan, il faut élire Sékou Mourou Diarra à la tête du Mali pour qu'il puisse négocier avec Donald Trump de géolocaliser les territoires maliens pour capturer tous les djihadistes au nord du Mali. Ça, c'est le premier plan. Deuxième plan, Mali, on est déjà 80% des musulmans. Tous les musulmans ne parlent même langue. Avec cette situation, les imams du Mali puissent finir cette guerre. Il faut leur donner beaucoup d'avantages pour qu'ils puissent négocier entre eux pour finir cette guerre. Si ce n'est pas le cas, avec la France peut débuter une guerre dans le francophone, mais la France ne finira jamais une guerre dans le pays francophone.
Oui, bonjour, Africa numéro 1. Je suis très, très content de la justice burkinabé. Aujourd'hui, ils ont jugé les deux personnes qui ont fait coup d'État au Burkina. Michel Basselet et Djengéré, qui sont condamnés. J'ai dit, c'est les mêmes choses qui sont passées au Mali. Pourquoi les autorités maliennes ne veulent pas mettre Sanogo à la justice des militaires, de la justice militaire au Mali? Sanogo, il devrait être jugé. Ça fait 6 ans, ou 5 ans, on n'arrive pas à juger Amadou Aya Sanogo, qui a fait coup d'État, un président qui est élu par le peuple. Amadou Toumani Touré. C'est le président qui est là en place aujourd'hui, qui s'appelle Ibrahim Boubacar Keïta. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé entre lui et Sanogo, Amadou Aya Sanogo. Ces messieurs devraient être condamnés fort. J'ai dit la justice burkinabé, félicitations. Je remercie Africa numéro 1, que Dieu bénisse l'Afrique. Merci, au revoir.
Africa. Prenez la parole dans le JDA sur Africa Radio.
Merci à tous pour vos messages aujourd'hui dans le journal des auditeurs. Les enjeux de l'élection présidentielle en Mauritanie, c'est ce samedi. Les Mauritaniens se rendront au bureau de vote le 22 juin pour se choisir un nouveau président de la République parmi 6 candidats. Le président sortant, Mohamed Ould Abdelaziz, ne se représente pas en respect des limitations de mandat, mais la majorité sortante soutient quand même la candidature du général Razouani, ancien chef d'état-major et actuel ministre de la Défense. Alors économie, sécurité, lutte contre l'esclavage, quels sont les enjeux de cette présidentielle? Nous en parlons tout de suite avec Bokar Oumarba, porte-parole de la coalition Vivre Ensemble, dont le candidat est Kane Hamidouba. Bokar Oumarba, bonjour.
Oui, bonjour madame.
Merci d'être avec nous. Avant de donner la parole aux auditeurs, mon cher Bokar Oumarba, quelques jours du vote, comment s'est déroulée la campagne de Vivre Ensemble? Quel bilan feriez-vous de cette campagne?
Alors, c'est une campagne intense dans tous les sens du mot, intense parce qu'elle a soulevé beaucoup d'espoir, intense parce qu'elle est inédite dans la façon dont la coalition Vivre Ensemble y est prise. Intense parce que c'est un ensemble de partis politiques de l'opposition partageant ensemble une même analyse du pays, celle que ce pays doit être refait. Il doit être refait parce que le pacte républicain qui a été à l'origine de sa création a été rompu depuis longtemps. Et ça, les Mauritaniens semblent l'avoir compris durant cette campagne, au vu des mobilisations qu'on a pu constater, tant dans le sud qu'au nord d'ailleurs, puisque le candidat Kane Hamidouba était encore là il y a 2 jours à Zouérat. Il y a eu une très très forte mobilisation autour de la coalition. Et donc nous sommes remplis d'espoir en tous les cas, remplis d'espoir parce qu'enfin le message que nous lançons, c'est lui que la Mauritanie doit reprendre la notion de nation, c'est-à-dire ce pacte qui fait que les Mauritaniens vivent ensemble et en sont conscients dans un même pays. Ce message-là semble être compris. Donc nous sommes remplis d'espoir, nous sommes très fiers de cette campagne, très fiers de la façon dont les gens se sont investis, très fiers non seulement de la façon dont la jeunesse s'est emparée de cette campagne et a fait du projet Vivre Ensemble son projet parce qu'elle sait que c'est elle la première concernée. Parce que lorsqu'on parle de vivre ensemble en Mauritanie, on se tourne vers l'avenir. Or, l'avenir parle plus aux jeunes. Donc voilà, je vous dis ma satisfaction aujourd'hui de la façon dont la campagne s'est déroulée, malgré le manque de moyens, malgré la fatigue, malgré le fait que la campagne a été rude parce que nous avons en face un camp qui est prêt à tout pour se maintenir au pouvoir, y compris à passer par la fraude. Malgré tout cela, nous sommes très fiers.
D'ailleurs, quel regard vous portez justement hein, sur le général Razzani qui demeure ministre de la Défense alors qu'il est en campagne? Est-ce que ce n'est pas un peu gênant?
Ben, c'est toujours très gênant, même si, pour rectifier, il me semble quand même qu'il a démissionné, en toute honnêteté, il a démissionné de son poste de ministre de la Défense. Comme mais vous n'avez pas fait cette erreur par hasard,
en vérité. Alors, j'ai vérifié, et on le présentait comme l'actuel ministre de la Défense, plusieurs journaux.
Bien sûr, mais c'est parce qu'on sait que c'est une démission en fait de façade et qu'en vérité, au fond, il s'agit bien d'un projet de continuité du régime militaire qui sévit en Mauritanie depuis 1978. Donc c'est pour ça aussi que sa démission est passée pratiquement comme lettre morte, parce qu'on sait pertinemment qu'il est toujours à la tête de l'armée mauritanienne et à travers lui, Mohamed Abdelaziz. Donc sa candidature est une candidature de continuité. Nous sommes là pour la rupture.
C'est très clair, merci beaucoup Boukarba. Restez en ligne, on va donner la parole aux auditeurs 33 1 55 07 58 00 si vous souhaitez participer. L'antenne est à vous. On accueille tout de suite Soninke Facile. Bonjour Soninke Facile.
Oui, bonjour Africa numéro 1.
Bienvenue dans le JDA d'Africa Radio, mon cher Soninke Facile.
Oui, toutes mes salutations à tous les auditeurs de l'Afrique jusqu'à l'Europe. Et à toute la diaspora.
Alors on vous écoute, quel regard portez-vous sur cette élection en Mauritanie? Est-ce qu'un jour un non-militaire va pouvoir présider au destin de ce pays?
Ben oui, c'est ce que nous voulons, mais vous avez vu, la campagne électorale en Mauritanie, c'est déjà déséquilibré. Les militaires, ils ne veulent jamais laisser le pouvoir avec les civils. Sinon, il y a un civil qui est bien placé, qui se nomme Biramda Abed, que tout le monde connaît, un prix Nobel de la paix et tout, donc un gars qui lutte contre les inégalités en Mauritanie, contre l'esclavage et tout, là où il passe, c'est des milliers de supporters qui le soutiennent. Donc ses comptes ont été bloqués, il n'a pas assez de moyens, alors que l'État a tous les moyens, ils prennent les moyens du peuple, ils prennent des hélicoptères.
L'utilisation des moyens de l'État, c'est ce qu'on disait tout à l'heure.
Voilà, tout le moyen de l'État. Alors que les autres, c'est complètement déséquilibré. Alors qu'ils n'ont rien fait. La Mauritanie, c'est complètement... Ils sont endettés de plus de 90%. Tu vois, le pays est endetté, donc c'est avec les affaires des militaires, c'est-à-dire l'esclavage, ça ne recule pas. Dans toutes les ethnies, il y a l'esclavage. Tu vois, donc la Mauritanie, c'est pas possible, c'est des élections qui sont complètement... C'est pas égal.
Alors, est-ce que les conditions sont réunies pour... Alors, vous disiez, Soninke Facile, une campagne déséquilibrée, chaque candidat n'a pas tous les mêmes moyens. Est-ce que, selon vous, le vote, le scrutin peut être équitable et transparent?
Ben, ça peut pas être équitable. Déjà, rien qu'à regarder la CENI, la Commission nationale indépendante, c'est composé que de supporters du pouvoir. T'as vu? Donc, pour la diaspora, on ne peut voter qu'en France, on ne peut pas voter au Sénégal, on ne peut pas voter en Afrique centrale, on ne peut pas voter aux États-Unis. Tu vois? Donc là, ils ont mis des bureaux de vote que dans des pays arabes, là où il n'y a pas de. Là où ils pensent qu'il faut avoir des électeurs. T'as vu? Donc, c'est complètement bâclé, quoi. Ils ont mis tout à leur côté, quoi. Donc, les autres, ils s'en fichent. Donc ils veulent rester au pouvoir, partager le magot, et puis ils ne veulent pas que vraiment, je comprends pas quoi, c'est pas possible, c'est complètement déséquilibré.
Bon, merci beaucoup hein, Soninke Facile hein, d'être intervenu dans ce journal des auditeurs. On salue hein, voilà. Tous les Soninke d'ailleurs, même ceux qui sont difficiles, j'en connais quelques-uns d'ailleurs dans Africa Radio. Merci voilà. Beaucoup. Hein.
Bah, je peux ajouter un petit truc là.
Allez-y, je vous en prie.
Déjà, les militaires disent qu'est-ce qu'ils ont fait là depuis 60 ans. Déjà, l'éducation en Mauritanie, c'est complètement à terre. Il y a plus de.
Le bilan est mauvais. Hein. D'ailleurs, vous parliez du taux d'endettement hein, tout à l'heure. C'est vrai que le taux d'endettement s'approche même hein, des 100% hein, du PIB.
Voilà. Avant, c'était 50. Avant, c'était arabisant et francisant. Maintenant, le pays est complètement arabisé. Les francisants, ceux qui ont appris le français, quand ils font les concours, ils échouent parce qu'ils ne comprennent pas arabe. Donc les, ceux qui sont au pouvoir, ce sont des Arabes, ils veulent que le pays soit à 100% arabe. Donc du coup, les négro-mauritaniens sont complètement exclus du système. Les généraux, les officiers, tout est arabe maintenant. Tout le monde, les négro-mauritaniens sont complètement exclus de la Mauritanie. Il n'y a que quelques corrompus qui sont avec eux, ils ne disent rien, ils laissent faire. Et voilà quoi, ils font ce qu'ils veulent.
Merci encore, hein. Ce n'est pas facile justement, on va demander une réaction à Bokar Oumarba. On entend bien hein, quand ce n'est pas facile finalement parle hein, de l'exclusion des négro-mauritaniens mais aussi de l'esclavage hein, qui sont deux choses différentes. On comprend bien le sens de votre coalition Vivre Ensemble dont c'est le nom Bokar Oumarba. J'avais une question Soninke Fassil parlait beaucoup hein, de Biram Dahabeid hein, leader anti-esclavagiste qui a déjà été candidat aux élections présidentielles. Pourquoi ne pas s'être associé à son combat puisque vous semblez défendre à peu près les mêmes valeurs?
Disons que la question aurait pu aussi être posée à M. Biram Dahabeid. Nous défendons effectivement à peu près le même projet pour la Mauritanie, en tout cas au dire des uns et des autres, c'est sûr. Après, lorsque votre l'intervenant, Soninke Fassil, dit qu'en Mauritanie, il y a un projet d'arabisation générale, c'est tellement vrai qu'il devrait remarquer que dans son camp, il a des alliés qui sont aussi dans ce projet-là. Ce sont les bassistes, justement, du parti Tawab qui soutiennent la candidature de Biram Dahabeid. Vous voyez, c'est déjà là un point de nuance qui fait que difficilement sur ce point-là, nous pouvons être crédibles lorsque les alliés proches sont des bassistes qui ont justement mis en route ce projet d'arabisation totale de la Mauritanie. L'autre raison, c'est que nous sommes une coalition et lorsque le projet de coalition a été monté, il était ouvert à tout le monde. Donc, Biram Dahabeid avait tout loisir à venir candidater au sein de la coalition. Donc, c'est un autre choix assez respectable qu'il a fait, c'est d'aller seul en candidature. Voilà, donc nous ne pouvons que respecter cette décision-là.
C'est très clair. L'auditeur évoquait des bureaux de vote qui seront absents dans certains pays. C'est le cas en France. Les Mauritaniens de France ne pourront pas voter, c'est ça?
Si, ils pourront voter. Ils pourront voter, mais ils ne peuvent voter qu'à Paris.
Qu'à Paris,
Ne peuvent voter qu'à Paris, y compris tous les Européens ne peuvent voter qu'à Paris. Quand, si vous êtes à Bruxelles et que vous voulez voter, vous devez vous déplacer jusqu'à Paris. Si vous êtes à Dakar et que vous voulez voter, vous êtes obligé d'aller soit en Mauritanie ou à Banjul. Et il a raison lorsqu'il dit que la cartographie électorale est faite en fonction de ce que le pouvoir estime être son intérêt. Là où il pense avoir des gens qui lui sont favorables, il ouvre un bureau de vote. Et là où il pense que les gens lui sont défavorables, il empêche les gens de voter. Donc il y a une rupture d'égalité entre les citoyens. Et ça, c'est la volonté de l'État. Ce sont les amis de M. Razouani qui ont organisé les choses.
Restez à l'écoute, Bokar Oumarba. Je vais vous lire quelques messages que les auditeurs nous ont envoyés sur la page Facebook de l'émission. Il y a Christophe qui nous dit « Une alternance pacifique et démocratique, c'est le souhait de tous les Africains. » Le militant anti-esclavagiste Biram Dahabeid est mon candidat, il a dit. « La lutte pour les droits humains est une urgence en Mauritanie. » Muntaga nous dit « Il y a un seul enjeu, c'est la confiscation du pouvoir par un petit groupe de soldats. » Traînant un peuple paisible dans la boue actuellement, les jeunes ne veulent plus céder à la menace et à la manipulation. Le souhait commun, c'est la transparence, quel que soit le candidat. Tout le monde acceptera, mais la fraude sera difficilement digérable par la jeunesse. Debout, les élections doivent être chiga, visibles et limpides. Je ne sais pas ce que veut dire chiga. Bokar Oumarba, je ne vous ai pas demandé justement une réaction sur les conditions de l'organisation du scrutin. Est-ce que, puisque vous y allez, votre coalition va... Vivre Ensemble participe à l'élection. Pensez-vous que toutes les conditions sont réunies pour un scrutin libre, transparent et équitable?
Non, les conditions ne sont pas réunies. Évidemment, ça l'aurait été si, en amont du processus électoral, l'opposition avait été invitée d'abord à participer à l'élaboration du processus électoral. Ça commence par la mise en place du fichier électoral, ça passe par la composition de la CENI, la Commission nationale indépendante, ça passe également par la définition du code électoral, ça passe par tout ça. Et en tout cela, la démarche du pouvoir a été unilatérale. À aucun moment, l'opposition n'a été consultée pour quelque étape que ce soit dans le processus électoral. C'est pour ça.
Du coup, est-ce que vous mettez en place des mécanismes le jour du vote pour éviter, pour ce qu'on appelle sécuriser le vote de vos militants?
Bien sûr. D'abord, nous, en amont, nous essayons aujourd'hui de faire du porte-à-porte pour expliquer aux gens comment voter, parce que c'est un bulletin unique. Et nous savons que nous sommes dans un pays avec un taux d'analphabétisation élevé, donc il faut être pédagogue dans la démarche d'explication du vote. Nos militants sont sur le terrain en train de faire cela. Nous essayons d'être présents dans tous les bureaux de vote. Et là où nous ne pouvons pas, nous, coalition, être présents, nous faisons en sorte que nos partenaires de l'opposition prennent le relais de la vigilance, comme nous le ferons d'ailleurs là où ils ne sont pas. Donc il y a quand même une collaboration entre au moins 4 candidats de l'opposition pour avoir une mutualisation de la vigilance par rapport à ces élections-là. Naturellement, le pouvoir a une longueur d'avance dans la foule, parce que nous avons vu qu'il y a eu déjà des achats de comptes de cartes d'identité, qu'il y a eu des personnes qu'on a retrouvées avec déjà des bulletins signés M. Razouani. Cela veut dire quelque chose, cela veut dire que le pouvoir panique, mais ça veut dire aussi que les éléments de l'opposition ou les citoyens mauritaniens sont devenus plus vigilants pour pouvoir découvrir ce type de fraude. Donc, vous voyez, le processus électoral, évidemment qu'il n'est pas très transparent, puisque en amont, nous n'avons été associés à rien. Nous ne faisons, moi, je n'accorde aucune présomption de bonne foi au pouvoir, puisque je le pratique depuis des années et je sais jusqu'à quel point il est prêt à conserver le pouvoir. Mais par ailleurs, je suis absolument confiant dans la volonté du peuple mauritanien d'arriver au changement.
Quand l'auditeur dit, finalement, la fraude ne sera pas digérable par la jeunesse, il y a une. Vous en pensez quoi ? Vous êtes d'accord avec lui ?
Je pense qu'il a parfaitement raison. Et d'ailleurs, le candidat que je représente l'a dit très clairement. Il n'accepterait pas qu'une victoire de l'opposition soit confisquée par le pouvoir. Et quand il dit qu'il ne l'accepte pas, c'est parce qu'il sait que le peuple mauritanien est prêt au changement, veut le changement, exige le changement et n'est pas prêt à ce qu'on lui vole ce changement qu'il souhaite de tout son cœur. Et que donc, si jamais le pouvoir s'aventurait à vouloir confisquer le pouvoir, que la majorité s'aventurait à vouloir confisquer le pouvoir alors même que c'est l'opposition qui gagne, il prendrait la responsabilité de ce qui pourrait en advenir. Parce qu'il y a aujourd'hui une jeunesse qui est impatiente, qui est confrontée au chômage, à l'exclusion, au racisme d'État, qui est confrontée au rafle nocturne des amis de M. Razouani, qui d'ailleurs n'a fait qu'à campagne sur un aspect sécuritaire.
Oui, donc, justement, j'allais vous poser la question, car Oumar Ba, la Mauritanie hein, est dans une région plutôt secouée, convulsée, pays voisin du Mali, voilà, dans le Sahel. Est-ce que la sécurité est l'une des préoccupations des Mauritaniens ? Et quel regard vous portez justement sur la gestion de cette sécurité ? Yabiram Dahabed, encore lui, vous m'excuserez, il a dit qu'un couple d'Adelaziz n'avait pas instauré la sécurité dans le pays, mais plutôt signé un accord avec les extrémistes.
Mais en tout cas, ce qui lui donne raison, c'est un certain nombre de révélations qui ont été faites il y a quelques mois sur effectivement un accord secret qui serait passé entre l'État mauritanien et les éléments d'Al-Qaïda. Moi, je n'en ai pas l'absolue certitude pour l'affirmer, mais en tout cas, il y a cette révélation-là. Et il est effectivement étonnant, alors même que nous sommes un pays tout aussi, on va dire, instable que les autres. Nous n'avons rien de plus que les autres, que nous soyons le seul pays qui, depuis quelques années, effectivement, n'a pas été touché par le terrorisme. Mais bon, moi, je ne vais pas m'en désoler qu'il n'y ait pas en Mauritanie de terrorisme. Par contre, là où je porte l'analyse, c'est sur le fait que M. Razouani, pour tromper le peuple mauritanien, puisse dire, voyez, nous avons assuré la sécurité à nos frontières, nous continuerons de le faire, il faut voter pour nous pour cela. Moi, j'ai dit à M. Razouani que s'il a envie de s'occuper de notre sécurité, moi, je suis assez d'accord. Il est militaire, c'est son engagement. Mais il le fait en dehors du palais, il le fait dans sa caserne. C'est ça son rôle. Le palais, c'est pour les civils. Donc voilà, et je pense aussi que la plus grande menace sécuritaire de la Mauritanie ne se trouve pas à l'extérieur, elle est interne. Elle est dans le fait qu'on est dans un pays où il y a eu des milliers de Mauritaniens qui ont été déportés au Sénégal et au Mali parce que noirs. Certains sont restés au Mali et ne sont jamais revenus. D'autres ont été ramenés par un accord tripartite entre Sénégal, Mauritanie et le HCR, mais qui sont redevenus réfugiés chez eux parce qu'ils n'ont pas pu regagner leur maison ni leur terre de culture. Et il y a des orphelins et des veuves de militaires qui ont été massacrés dans les années 89-90, qui n'ont toujours pas accès à la vérité des faits quant à la disparition de leurs parents. Et c'est cela la bombe. La bombe, c'est le racisme d'État. La bombe, c'est le maintien de l'esclavage. La bombe, ce sont les pillages de deniers de l'État, alors que la plupart des Mauritaniens croupissent dans la misère. Ça, c'est une bombe interne qui ne peut pas être traitée par les militaires, qui ne peut être traitée que par des civils conscients et qui ont un vrai projet politique pour la Mauritanie. M. Razouani n'a pas de projet politique pour la Mauritanie. Il a un projet de continuité du régime du général Mohamed Abdelaziz.
Merci Bocar Oumar Ba. Il nous reste quelques minutes, on va écouter un auditeur, Alassane, bonjour, qui va revenir justement sur cette question de racisme d'État. Alassane, bonjour.
Oui, bonjour. Moi, j'ai dit qu'il n'y a aucune solution qui peut dire qu'en Mauritanie, il y aura une démocratie. Et la Mauritanie, il n'y a qu'une seule chose vraiment qui vaille, à mon avis. C'est pareil entre le noir et le blanc. Il n'y aura pas, parce que quand vous regardez,
on ne vous entend pas très bien, Alassane.
Il n'y aura pas un État viable tant que les Noirs... Parce qu'il n'y a aucun pays, même en Afrique du Sud d'avant, n'est pas comme la Mauritanie. La Mauritanie, vous n'entendez pas, même les partis d'opposition, comme RFD, Amadou Baba, comme Mahmoud, ces partis-là, il critique, mais jamais il critique les systèmes d'esclavage. Il dit qu'il n'y a pas de courant, il y a des sommages, etc. Mais même il ne rentre pas dans les détails ce qui mine cette société. C'est un État créé, je suis désolé, par la France. À partir des accords en 1958, c'est là les bases. Il faut séparer entre le noir et le mauritanien. Ce n'est pas possible. On ne peut pas créer l'esclavage. Toute une armée, vous ne voyez pas vraiment des gradés noirs, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Quand vous regardez ce qui l'entoure, tous les ministres compétents de pétrole, de finance, sont dans son équipe de campagne. Ils ont mis à sa disposition une armée de l'air. Il va là où il veut, avec les frais de l'État. Non, il n'y aura pas un changement. Ce n'est pas la peine d'aller aux élections dans ces conditions comme ça. Les pays comme Dakar, comme Mali, tout ça, il n'y a pas de bureau de vote. Partout où il y a le noir, il n'y a pas de bureau de vote.
Oui, donc, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Là, voilà. Pas de bureau à Dakar, vous l'avez dit. Hein, pas de bureau, pardon, vous avez dit au Mali. Merci Alassane, merci beaucoup. Il nous reste encore un peu de temps, si vous voulez réagir. 33 1 55 07 58 00. Il y a IB qui nous dit sur WhatsApp, je pense que c'est encore comme toutes les élections en Afrique, ce qui n'est pas tout à fait vrai, mon cher IB. C'est-à-dire tricherie et autres. Il faut que la diaspora se mobilise, nous dit IB. Bocar Oumar Ba, à l'heure où on parle parfois, souvent d'ailleurs malheureusement en ce moment, d'affrontements ethniques, notamment au Mali, ce que dénie d'ailleurs le président malien. Est-ce que par contre, en Mauritanie, on peut parler, on peut dire, vous avez parlé d'arabisation, Alassane a des mots un peu forts, puisqu'il compare la situation à l'apartheid de l'Afrique du Sud. Est-ce qu'on peut parler d'épuration ethnique en Mauritanie, selon
vous ? Bien sûr, c'est le cas. Comment vous pouvez qualifier une situation où on a déporté de l'autre côté du fleuve plus de 60 000 personnes dans une Mauritanie de l'époque qui comptait 2 millions, à peu près 300 000 habitants, tous noirs. Comment, presque de la même ethnie d'ailleurs, comment vous pouvez qualifier le fait que le long de la vallée du Sénégal, pendant des années, on a violé des filles, on a tué des gens parce qu'ils étaient au fleuve après 19 heures et on les a jetés sur le fleuve, on a pris des gens et on les a fait disparaître et jamais plus on a su où ils étaient, qu'on a tué plus de 500 militaires mauritaniens, tous noirs, dont 28 ont été sauvagement assassinés le 28 novembre 1990 pour fêter l'indépendance du pays, coïncidant avec la même date. Si ça ne s'appelle pas de l'épuration ethnique, je ne sais pas comment on peut l'appeler. Et d'ailleurs, je trouve que les gens sont dans un euphémisme très gênant lorsqu'ils s'amusent à parler de passif humanitaire. Bien qu'il y a des gens qui, par pédagogie, ont essayé d'expliquer que c'est un passif de l'État. Mais pour autant, je pense qu'il faut appeler les choses par leur nom. C'est pour ça que l'usage des termes apartheid par l'intervenant d'avant ne me gêne pas. Ce n'est pas de l'exagération. L'apartheid, par définition, c'est le fait de traiter de façon différente des citoyens d'un même pays en fonction de leur race. Et en Mauritanie, c'est parfaitement le cas. Regardez, par exemple, la constitution mauritanienne. Jusque-là, ce qui faisait la différence entre l'apartheid Afrique du Sud et la situation en Mauritanie, c'est qu'en Afrique du Sud, l'apartheid était constitutionnel. Et qu'en Mauritanie, il n'y a aucune loi qui institue normalement le racisme. Mais quand vous avez un article qui dit qu'il y a des langues nationales en Mauritanie, mais que parmi ces langues nationales, on en choisit une seule et on l'officialise et les autres, on refuse leur officialisation, leur enseignement, on fait une rupture d'égalité là aussi entre les citoyens, de par même la Constitution. Donc, est parfaitement dans une situation de différenciation des ethnies mauritaniennes en fonction de leur appartenance raciale, et ça ne s'appelle pas autrement que par le terme d'apartheid dans la langue concernée.
Merci, Bokar Oumar. Bah, on l'aura bien compris hein, que l'un des enjeux encore aujourd'hui en Mauritanie principalement est l'enjeu de cette élection présidentielle, c'est le vivre ensemble. Bokarba, justement, merci encore. Je rappelle que vous êtes porte-parole en Europe de la coalition Vivre Ensemble, hein, donc candidat à la présidentielle de samedi. C'est Kane Hamidou. Baba, merci encore. Merci à tous de votre participation. Chers auditeurs, n'hésitez pas à continuer le débat sur les réseaux sociaux, mais aussi sur le répondeur au 33 1 55 07 58 05. Nous diffuserons hein, les messages demain. Justement, demain, tiens, nous parlerons de ce projet de monnaie unique dans l'espace CDAO. En attendant de vous retrouver demain, prenez soin de vous à l'écoute d'Africa Radio.